Salut à vous chères auditrices et chers auditeurs des radios Ferrarock de France, de Belgique et du Québec. Soyez les bienvenus dans cette édition spéciale de Dig Dig Diggers consacrée à l'édition 2023 des Franco de Montréal qui se sont achevées le 17 juin dernier entre 500 feux. Grâce au partenariat entre le festival précité et la Ferrarock, j'ai eu la chance d'y être invitée. Quatre jours durant, j'ai sillonné les scènes extérieures sur lesquelles la fine fleur des groupes francophones québécois présentait leur nouveau projet. Évidemment, j'aurais pu aller interviewer Arthur H, M, Zao de Sagazan ou encore Daniel Bélanger, mais l'idée était plutôt ici de vous faire découvrir ce que le Québec a de meilleur dans ses starting blocks. Tout cela grâce au chouette réseau de la Ferrarock, aux aides conjointes de Jérémy, Marie-Pierre, Laetitia et les autres des Franco, et de ce si beau réseau qu'est le mien et dont j'ai découvert l'ampleur en me rendant pour la première fois au Québec, dont je rêvais depuis si longtemps. Initiée grâce à notre label Casbah Records il y a une dizaine d'années, la connexion avec Montréal est depuis restée dans mon cœur. Je l'ai choyée et entretenue et elle me l'a bien rendue. Non contente d'être en reportage en Amérique du Nord, je me suis défiée avec mon alter ego La Scandaleuse de décoter un DJ set à Montréal. C'est Cédric Marinelli de Hippie Oura, dont vous entendrez parler dans cette émission, qui m'a invitée à l'Escogriffe, l'Esco comme on dit à Montréal. C'est son bar et les connaissances que nous avons en commun lui et moi et que j'ai sollicitées m'ont toutes, sans exception, renvoyées vers ce café-concert mythique de Mile End. J'y ai donné mon DJ set le plus tardif de ma courte carrière. À Montréal, il était minuit, en France, 6h du matin. J'ai joué de minuit à 3h, heure montréalaise, de 6h à 9h du matin, heure de Paris. Et c'était le deuxième soir de mon séjour, autant vous dire que le mot jet lag a pris tout son sens à ce moment-là. Ce premier séjour au Québec m'a beaucoup marqué. J'ai pris un plaisir immense à rencontrer ces musiciens et ces musiciennes, ces passionnés de musique œuvrant pour l'une à la programmation des Franco et pour l'autre à la programmation musicale de CISM, une des deux radios québécoises cousines de la Ferrarock. Vous les entendrez toutes et tous dans ce reportage que je vous présente sous la forme d'une compilation d'interviews in situ. Au programme de cette émission, vous pourrez entendre Isabelle Ouimet en charge de la programmation des groupes de musique alternative sur le Festival des Franco de Montréal, puis vous entendrez un interview de Bon Enfant avec Guillaume Chiasson et Daphné Brissette. Ensuite, comme dit plus avant, ce sont Cédric Marinelli, Miles Dupierre-Gagnon et Gabriel Lambert de Hippie Oura que vous pourrez écouter, avant de jeter une oreille au groupe Yocto en compagnie de Yuki Bertium Tremblay et Jean-Michel Coutu, avant d'enfin aller faire un tour avec Benoît Poirier chez CISM, la radio cousine de la Ferrarock au Québec. Le tout sera bien sûr illustré par certains des meilleurs morceaux, selon moi, de ces groupes. Comme annoncé, commençons par cet entretien avec Isabelle Ouimet, membre de l'équipe de programmation des Franco de Montréal.
Alors j'ai compris que vous êtes plusieurs dans l'équipe de programmation là, sur le Festival des Franco. Comment ça se passe l'arrivée d'un ou d'une nouvelle dans l'équipe?
En fait, on est en mutation depuis un peu plus qu'un an. Comme vous savez, Laurent a quitté, fait la passation des pouvoirs vers Morin. On a aussi accueilli dans l'équipe Camille Guiton, qui programme aussi sur le Festival Oceaga. Donc ça a été une super belle expérience de mettre en commun un peu tous nos champs d'expertise. Puis de se redistribuer, de se challenger en bon québécois sur les choix artistiques avec à l'esprit d'avoir la plus belle diversité possible, autant au niveau des genres musicaux qu'au niveau de la représentativité des différentes communautés qui sont ici à Montréal. Donc ouais, ça s'est fait très harmonieusement puis avec beaucoup d'enthousiasme.
Et alors, vous avez chacune un peu quand même vos spécialités, vos genres. Comment ça se distribue dans l'équipe?
Oui, c'est exact. On vient tous de background en bon québécois, encore une fois, très, très différent. Donc, évidemment, Morin est très jazz, mais aussi très hip-hop. Moi, je viens du secteur un peu plus indie, donc la musique un petit peu plus alternative, musique actuelle, musique expérimentale. Camille est beaucoup dans la musique urbaine, la musique pop, la musique hip-hop. Valérie Morel aussi qui travaille avec nous depuis vraiment longtemps, c'est notre doyenne avec Morin qui est aussi un vétéran désormais, plus sur la chanson, sur aussi une approche un peu plus indie sur le secteur européen. Donc on a tous un peu nos champs d'expertise puis on met ça en commun puis ensuite on brasse les idées.
Mais alors, comment vous faites justement pour trouver cet équilibre entre chaque style, pour que chacun s'y retrouve, chacune? se sentent pas trop frustrés de pas avoir assez de place? C'est facile ou c'est compliqué des fois?
Évidemment, on a tous des gros caractères, donc ça donne lieu parfois à des discussions un peu musclées, mais toujours dans un grand respect de l'autre. On programme tout en comité de programmation, donc c'est assez démocratique comme processus, puis on essaie d'avoir la meilleure vision globale pour l'événement, donc de servir le public au mieux possible. Donc on laisse de côté un peu les intérêts personnels, évidemment au bénéfice de l'événement proprement parlé, créer des choses spéciales, développer des thématiques X ou Y. Par exemple, on a la scène des Jardins qui est que hip-hop urbaine. Donc, tu sais, ça nous donne déjà une espèce de cadre dans lequel on peut quand même s'éclater, mais bon, ça dicte un peu la ligne éditoriale de base. Puis on y va aussi avec les lieux. On a des scènes qui sont quand même très... qui ont beaucoup de personnalité. Bon, évidemment, il y a la place des festivals, c'est la fête immense pour monsieur, madame, tout le monde. Mais on a aussi des scènes un petit peu plus nichées, en parenthèse, ou plus intimistes dans la disposition. Donc, on a le pub, par exemple, qui donne un peu l'impression d'un club à ciel ouvert. C'est un peu le cas pour la scène Hydro-Québec aussi. La scène Sirius et la scène Loto-Québec, qui est notre deuxième plus grosse scène, se font face. Donc, c'est le fun des fois de créer de la magie aussi entre un programme principal et sa suite. Donc, on a un peu tout ça dans nos têtes, puis on joue avec les parcours. Est-ce que quelqu'un qui sort de Fouki va aller voir la F? Mais bien sûr! Alors, tu sais, on essaie de dessiner un peu vers où les gens vont se diriger après. Ou, quand c'est le cas d'un fort, fort appel, comme on a vu en début de festival avec une Roxane Bruno, même avec une Cœur de Pirate, ben, on essaie de penser à ce qui vient avant aussi, en se disant, les gens vont arriver plus tôt pour avoir de bonnes places. Qu'est-ce qu'on met devant eux pour que la fête débute instantanément? Donc, ouais, c'est assez complexe, mais c'est très, très agréable et plaisant à faire.
Et alors, j'aimerais qu'on parle de la scène féminine. Parce que c'est quand même super important de défendre la place des femmes dans les musiques actuelles, parce que qu'on le veuille ou non, c'est quand même plus difficile pour les filles d'accéder aux scènes, parce que voilà, elles ont moins de modèles pour tout un tas de raisons. Il n'y a pas que les modèles, mais il y a beaucoup de raisons à ça. Est-ce que toi, tu prends du temps particulièrement pour aller chercher des filles sur la scène émergente?
On le fait en équipe, il n'y a pas que moi. C'est sûr que nous, on vise toujours à la base, au début du processus de programmation, d'avoir la parité. Bon, dans les faits, c'est très complexe à obtenir pour toutes sortes de raisons, notamment le fait qu'il y a une moins grande représentativité féminine en termes de leader de projet. Après, il y a des musiciennes de plus en plus visibles ici à Montréal. Je pense à Ariane Roy, je pense à Lou Adrienne Cassidy. Je pense même à des plus jeunes comme Rose qui commencent à être sur plusieurs spectacles. Oui, c'est super important pour nous. Je pense que cette année, on a quand même fait un beau travail à essayer d'amener des femmes en posture de headliner, en bon québécois. T'sais, on a Juliette Armanet qui va être au MTLUS, on avait Cœur de Pirate, on a Lisa Leblanc ce soir. C'est sûr que c'est un défi du fait du nombre, mais du fait aussi de l'ampleur des projets. Je ne sais pas à quel point c'était conscient, mais c'est bien sûr toujours un défi, je pense, pour notre société en général, que d'accorder la place égale aux femmes qu'aux hommes, dans le secteur de l'industrie culturelle, mais aussi dans tous les autres secteurs, j'ai l'impression. Donc, c'est quelque chose qui est en processus. Je pense que les gens sont de plus en plus sensibles à ça, qui font de plus en plus attention. Et ben nous, on se met des objectifs hauts et on essaie toujours de surpasser pour les atteindre. Et à qualité égale, je pense qu'on va préférer un projet féminin, ne serait-ce que pour avoir plus de représentativité. Bien sûr, à qualité égale, parce qu'on est dans une dynamique aussi où on doit assurer... J'ai pas besoin de faire un dessin, je pense que c'est très clair. On veut assurer la qualité de notre événement d'une façon globale. Mais on va souvent favoriser des projets féminins, ne serait-ce que pour être un peu porteur de ce message-là. Moi, j'ai pogné de quoi en bon québécois en voyant aller à Louise Sauvage sur la place des festivals. Ouais, il en faut plus des projets comme ça. J'ai beaucoup aimé aussi Mara, que je connaissais pas. J'allais voir beaucoup des choses que je connaissais pas. Les collègues, ça apporte ça, hein. Ça apporte un lot d'artistes avec lesquels on est peut-être moins familier. Puis j'espère être cette personne-là pour quelqu'un d'autre. Et j'espère être cette personne-là pour un public aussi. Mais ouais, c'est fantastique. On découvre des femmes fortes avec des projets de feu, puis avec du charisme à en revendre. Donc ouais, c'est super trippant.
Merci.
Ben, ça me fait plaisir.
C'était Isabelle Ouimet, une des programmatrices des Franco de Montréal. Continuons cette émission en compagnie de Daphné et Guillaume de Bonenfant. Avant de les retrouver en interview, je vous propose d'écouter leur titre « Air de plastique », un single fraîchement dévoilé sur leur Bandcamp via le label du Prince.
À l'origine, c'était un projet à tous les deux, donc Daphné et Guillaume. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça s'est passé, la formation du groupe, après?
Ben, en fait, c'est ça, Daphné puis moi, on s'est connus dans des festivals au Québec, quand je jouais avec Ponctuation. Elle a joué avec le groupe Canaille, puis moi, dans ce temps-là, j'habitais à Québec, elle à Montréal, puis ça faisait longtemps qu'on voulait faire de la musique ensemble. Puis finalement, quand j'ai déménagé à Montréal, on a commencé à écrire des chansons ensemble, puis ça a commencé comme ça. On écrivait des chansons, puis graduellement, on a inclus Étienne, notre batteur. Puis on cherchait des membres, mais vraiment, on voulait pas n'importe qui non plus. Fait que ça a pris un peu de temps avant qu'on trouve les bonnes personnes. Puis ensuite, on a fini par trouver Mélissa. Mais Mélissa, elle a joué du clavier aussi avec Canaille.
Je voulais absolument une fille dans le band. Je voulais pas être la seule fille du groupe avec plein de gars. Ça ne m'intéressait pas. Fait que quand on a passé à Mélissa, elle avait pas encore vraiment d'expérience avec des groupes. Elle était plus comme une formation de elle était plus pigiste, là. Elle avait des contrats, mais elle avait pas été dans un band encore. Puis je pense qu'on a comme un peu profité de l'occasion, étant donné qu'elle était pas encore en grande demande. Puis c'est ça, après ça, Alex, ben c'est un petit milieu, là, la musique à Montréal. Fait que, je veux dire, Alex, je le croisais tout le temps où je travaillais dans un bar à ce moment-là qui s'appelle le Quai des Brumes.
Qui est à côté de l'ESCO.
À côté de l'ESCO, lui, et puis Alex, il m'a demandé subtilement si je cherchais un bassiste. Tout ça, là, ça s'est fait comme ça.
Et votre album, alors son nom, ça évoque des petites scénettes mignonnes qu'on fabrique dans des petites boîtes. Est-ce que c'est vraiment l'idée de ça, le disque? C'est chaque chanson propose une petite scénette, un petit univers dans lequel vous invitez les gens qui vous écoutent à aller se balader?
Il y a un petit peu de ça, mais aussi, en fait... En fait, ce qui est arrivé, c'est que la chanson thème de... Ben, la chanson thème. La chanson, on va dire, éponyme de l'album Diorama, qui était pas... C'était vraiment pas réfléchi, mais on a écrit cette chanson-là qui parlait plutôt de... On va dire de réalité simulée. Qui parlait de la question de est-ce qu'on serait pas finalement dans un monde synthétique où, tu sais, on avait vu un film, je pense, qui traitait de ça, là, de qu'on est peut-être dans un méga ordinateur. Ça nous faisait vraiment halluciner cette pensée-là, puis on a voulu en faire une chanson. Puis ensuite, puis l'espèce de métaphore avec le diorama nous est venue pour cette chanson-là, puis l'idée qu'on voit tout à travers aussi un écran, puis ça concordait aussi avec notre réalité pendant la pandémie, parce que finalement, on voyait tout soit à travers notre fenêtre chez nous ou à travers nos écrans de cellulaire, peu importe. Fait qu'il y avait toute cette question-là qui s'est mise à nous habiter, puis on s'est rendu compte finalement qu'il y a aussi le concept de... Le diorama se cadrait bien, comme tu dis aussi, au fait que c'est tous des petits univers, puis que finalement, on a un peu conçu cet univers-là dans notre appartement, puis on trouvait que finalement, le nom de l'album fitait... En fait, le nom de la chanson pouvait très bien concorder avec le reste de l'album au complet. On a choisi ce mot-là, qui est un mot qu'on voit pas si souvent que ça non plus, fait que on trouvait que c'était beau, en plus.
C'est un peu des petits poèmes que vous écrivez pour vos chansons?
Ben moi, j'aime ça les voir comme ça. Tu vois, quand j'écris des paroles, j'essaie de lire beaucoup de poésie québécoise. Je le faisais, là, j'ai arrêté, là, je vais recommencer. Mais j'aime ça m'imbiber de mots d'auteurs québécois. On dirait que je réapprends ma langue. C'est super inspirant faire ça. Puis ouais, je vois la chanson un peu comme ça. C'est sûr que, écrire de la poésie, c'est autre chose, là. Je pense pas que je pense pas que mes chansons, c'est de la poésie, là, mais ben, c'est une forme de poésie. C'est juste que nous, la nuance, c'est qu'on met les mots sur de la musique, fait qu'il faut que ça...
Ouais.
Puis ça, c'est comme le travail à moi puis Guillaume, on est comme vraiment méticuleux là-dessus, mais on essaie de vraiment faire cadrer les mots avec la mélodie. Puis des fois, c'est un très beau mot, mais ça marche pas dans le rythme, puis ça marche pas dans... La mélodie fait pas... Faut que la mélodie fasse briller le mot d'une certaine façon. Les deux, il y a comme une cohésion entre les deux, puis c'est ça qui est comme le plus important, je pense.
On cherche pas à écrire des textes qui sont voués à être lus ou à, tu sais, c'est vraiment voué à être chanté. Puis c'est sûr que certains textes peuvent être intéressants à lire par eux-mêmes, mais c'est vraiment pas notre volonté au départ. C'est vraiment juste que quand on les chante, ça sort bien, puis on comprenne de quoi il est question, juste en entendant la chanson.
Oui, puis vous chantez en français, et en France, c'est pas si commun, finalement, les groupes qui font du rock et qui chantent en français. Il y a un peu des Suisses qui le font, et beaucoup des Québécois. Donc c'est vrai que nous, vu de la France, on se dit « Ouais, mais en fait, ils osent chanter en français ». Alors il y en a de plus en plus, hein, des groupes français qui se mettent à chanter en français. Mais du coup, c'est aussi... En fait, vous vous dévoilez plus en chantant en français, finalement. Alors, c'est peut-être différent ici, parce qu'en France, on se dévoile plus si on chante en français, parce que les gens sont moins anglophones. Ici, vous êtes vraiment dans les deux. Mais le choix de chanter en français, c'est un vrai choix pour vous? C'est venu comme ça?
Mais j'ai vu que... J'ai comme remarqué que, ben, avec le temps, à force d'aller en France aussi, tu sais, y a pas la... C'est sûr que le territoire, c'est pas pareil, là. Y a pas la menace... Si je peux dire la menace, là, c'est un gros mot, mais je veux dire, nous, on est genre une mini-province de francophones dans un immense territoire anglophone. Puis bon, vu l'histoire, ça a amené... Puis c'est sûr que la France, elle n'a pas cette pression-là, disons, elle n'a pas besoin de défendre le français. Mm-hmm. Tout le monde parle français, c'est pas un problème. Donc, je comprends aussi que les groupes n'avaient peut-être pas besoin de défendre leur langue. Alors que nous, peut-être un peu plus. Ouais. Après ça, je veux dire, nous, c'est sûr qu'être à côté des anglophones, ça fait que... Genre, moi, je me verrais pas chantant en anglais. J'aurais l'air comme d'un amateur. Ou
ouais.
Comme, pourquoi tu chantes pas dans ta langue? Tu sais, c'est un ouais. peu ça, la question que je me pose.
Ça remonte à loin aussi, la question de chanter du rock en français ici. Là, je veux dire, dans les années 60-70, il y avait justement la question identitaire bien, qui était vraiment plus forte aussi, là, parce qu'il y avait toute la question de la souveraineté puis de... comment dire... On essayait d'évacuer le mot canadien-français pour plutôt utiliser québécois, puis... Il y avait toute cette question-là d'identité, puis les groupes rock ont été importants dans cette effervescence-là dans les années 70. Là, autant des Robert Charlebois que des Offenbach, name it, le Harmonium. Tous ces groupes-là chantaient en français, mais c'était quelque chose de politique aussi. Là. Puis ça, c'est quelque chose qui est resté très, très ancré dans la musique québécoise. Puis ça, maintenant, c'est juste pas, c'est pas une question. Là. Quand tu fais du rock au Québec, c'est... Mais on est moins, je pense que vous êtes peut-être moins jugés par ça qu'ici, c'est sûr que...
On se sent moins jugés, peut-être.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est plus ça.
Parce qu'ici, quand tu chantes en anglais, mais dans un mauvais anglais, tu te le fais dire, là, tu sais, tout le monde rit un peu de toi, là.
T'as pas trop
envie. Ouais.
On va revenir à Bon Enfant. Il y a une imagerie, il y a beaucoup d'esthétique qui accompagne votre musique. Ouais. C'est important pour vous, ça, de... Bah, voilà, qui est... Et toute cette imagerie de couleurs, de clips, ouais. d'ambiance qui accompagne votre musique, ouais. C'est un tout, ça peut pas exister sans tout ça. Les affiches.
Moi, j'ai besoin de ça. Je pense que je travaille, je fais de l'art visuel aussi, on the side. Je fais de l'illustration, puis je pense que ça a tout le temps un peu accompagné mes projets. Puis je pense j'ai besoin aussi que la musique elle soit comme un peu qu'il y ait de la folie. Là. Je veux pas que ça ressemble à ma vie, à la réalité. Je veux comme un peu plonger dans un univers, puis je veux amener le monde avec moi là-dedans. Je pense aussi que Guillaume puis moi, on a toujours aimé les artistes visuels. Ils gravitent autour de nous, puis je pense qu'on aime ça, aller chercher genre leur bon goût, finalement. Puis, ouais, construire ça, une esthétique autour d'un ouais. groupe, je trouve que ça marque l'esprit.
C'était Guillaume Chiasson et Daphné Brissette de Bon Enfant qui se produisaient en juin dernier sur le Festival des Franco de Montréal. Avant d'écouter une nouvelle interview, écoutons Les Murs de Hippie Oura, extrait de leur album Exposition individuelle, sorti sur le label Simone Records.
Au-dessus le tapis repousse toujours.
On continue cette Dig Dig Digger spéciale Franco de Montréal 2023 avec un interview réalisé en loge avec Cédric Marinelli, Miles Dupierre-Gagnon et Gabriel Lambert juste après le concert de leur groupe Hippie Hourra.
Hello, hello, hello. Ah.
Racontez-moi comment vous avez créé ce groupe. Je te connaissais dans les Marinellis,
ouais.
Il y a longtemps et je t'avais perdu de vue.
J'ai pris une pause. Un soir, j'étais à l'ESCO, dans une pièce cachée. Miles était avec moi. Miles, il jouait avec Gab, ça fait super longtemps. Puis juste, « Hey, what's up? T'as-tu quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? » J'ai fait entendre deux, trois démos. Je dis, « Ah, je pense que j'aimerais ça refaire la musique. » Puis il dit, « OK, on tape ça, on enregistre ça. » C'est comme ça a parti.
C'est parti sur un jam, quoi?
Non, genre...
Non.
Sur une idée.
Ok, une idée qui est devenue, là maintenant, pour cet album, un concept. Mais vous voulez pas un peu plus me parler de cet artiste autour duquel vous avez fait ce disque? Parce que pour nous, les Français, je pense qu'il est assez méconnu, en fait.
C'est vrai? Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que Alex, qui joue les percussions avec nous, c'est comme son troisième grand-père. Il a toujours été proche de la famille, en fait. Là. Jacques, il y avait une fille qui s'appelait Nathalie, qui était vraiment amie avec la mère à Alex, qui jouait avec nous. Nathalie, elle s'est frappée par une voiture. Elle est morte après quelques jours suite à l'accident. Puis Jacques a vraiment gardé proche sa meilleure amie, qui est la mère Alix, Christiane. Puis il travaille encore avec les œuvres. Jacques est décédé en 2014, je crois. Fait qu'on avait accès à l'atelier, ils nous ont tout raconté des histoires, on avait accès à tous ses livres. c'était tout dans nos mains. Je trouvais ça beau, on trouvait ça inspirant, on trouvait ces toiles psychédéliques, entre parenthèses. Son
atelier, bah ouais, c'est hyper psychédélique et sombre à la fois. Ouais.
Fait que on avait comme pas le choix, mais c'était un concept qui était comme... Ça aurait été ridicule de pas aller là-dedans, surtout que c'est quelqu'un quand même célèbre au Québec, qui a touché tellement de gens, puis nous, en plus, ça nous marquait, puis ça marquait des proches à nous, la famille qu'on connaissait. Fait que je sais pas, je suis tombé là-dedans, j'en ai parlé aux gars, les gars ont voulu embarquer. Puis ça a été ça, il n'y a pas vraiment de question. Ça s'est comme un peu tout fait, tout seul. T'sais, j'essaie de décortiquer et de l'expliquer, mais c'était juste comme un oui pour tout le monde, puis tout était comme facile.
Mais alors du coup, comment ça s'est fait? Enfin, comment elle s'est construite après la musique? Vous êtes allé dans cet atelier, vous avez, je sais pas, comment ça vous est venu d'écrire les morceaux avec les tableaux,
ben, on avait des livres, on avait des trucs, on a regardé les toiles, on est allé voir les toiles. J'ai piqué des riffs à gauche, à droite, les gars aussi de leur bord. Moi puis Ralph, on est allé s'enfermer, on a commencé à lire les books des livres de Jacques, des espèces de livres de galeries qui avaient des œuvres. Puis sur les côtés, il y a des entrevues. Puis c'est de là vient les espèces de segway, d'espèces d'interludes sur l'album qui a fait un espèce de... quelque chose qui a lié un peu le tout. Une espèce de journaliste qui écoute pas le sujet puis qui a l'air de tout savoir. Fait qu'on a un peu parodié la chose. Puis après, pour la musique, les paroles des œuvres, on s'est plus inspiré des titres de ces toiles. Puis après, on a écrit nous ce qu'on avait envie autour. Là. C'est pour ça qu'on parle vraiment de autour des artistes.
Oui, c'est pas vraiment un hommage, mais c'est vraiment...
C'est une inspiration. En fait, c'est aucunement un hommage. C'est ce que lui... Tu sais, lui, il disait tout le temps, moi, je peins quelque chose, c'est pas à moi d'expliquer mon œuvre. À vous de me dire ce que vous en pensez. Puis c'est un peu ça qu'on a voulu faire, s'inspirer de son œuvre pour faire la nôtre, tu sais. C'est notre projet, tu sais. C'est pas Jacques, c'est Ipiura, mais il y a beaucoup de Jacques là-dedans.
Ouais, il est arrivé là, devant vous, dans votre groupe, et puis il vous a imprégné, en fait. Ouais. Ça a imprégné aussi toute l'esthétique, l'imagerie qu'il y a autour du disque. Mm-hmm. La pochette, c'est
la sienne. Mais après, tous les autres visuels, c'est comme habituellement, je fais un visuel soit pour la pochette ou pour les shows, j'ai eu l'idée de... On pourrait faire des peintures pour... Fait que j'ai essayé de m'inspirer un peu de ces trucs en allant un peu ailleurs, en allant un peu 70s dans les trucs que j'aimais. Mais on verra ma carrière de peintre va où. Je pourrais vendre plus mes jeans pleins de peinture, je crois, que mes frères. mais bon, on verra, au moins j'ai eu du plaisir.
Merci.
Cool.
Merci à toi.
C'était Cédric Marinelli, Miles du Pierre Gagnon et Gabriel Lambert de Ipiura. Avant d'aller visiter la radio CISM, on écoute Bye Bye Baby du girl band montréalais Nobro. C'est un morceau extrait de leur album Leave Your Truth Shred Subnar, sorti chez Dean Alone Records. Yeah. C'était Bye Bye Baby du Girl Band Montréal et Nobro. On enchaîne cette Dig Dig Digger spéciale Franco de Montréal 2023 avec une visite de la radio universitaire CISM, radio cousine de la Ferra Rock. C'est Benoît Poirier, directeur musical de la station et musicien dans Jésus les filles avec entre autres Yuki Bertium Tremblay de Yocto et Guillaume Chiasson de Bon Enfant, tous deux interviewés dans cette émission, qui m'a fait une visite guidée de la station située près du Mont-Royal.
Alors, on fait une visite de la radio, me racontes peut-être CISM, c'est quoi son histoire? Elle existe depuis combien de temps? C'est une radio universitaire, c'est ça? Hein?
Oui, c'est ça. Le CISM a vu le jour seulement sur le campus en 1985, est entré sur la bande FM en 91. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on calcule vraiment l'existence de la radio parce que c'est sa présence sur la bande FM, ce qui fait que donc la station a 32 ans maintenant. Puis l'histoire, c'est qu'à la base, on est à flanc de montagne ici à Montréal. Je sais que vous considérez que c'est une colline, c'est vrai que c'est pas très haut le Mont-Royal, mais bon, c'est dans le milieu de la ville, puis c'est la butte qu'on a ici. Puis on est présentement sur le flanc de cette montagne-là, ce qui fait que le campus de l'Université de Montréal est un petit peu tout croche. Il y a beaucoup de demi-étages, puis de choses comme ça. Fait que bref, notre premier studio est en bas des petites marches-là. Puis l'endroit où on se trouve, c'est le nouveau studio. On est dans l'Université de Montréal. L'Université nous prête ces locaux-là de façon gratuite, mais on n'appartient pas à l'université. En fait, la radio appartient aux étudiantes et étudiants de l'Université de Montréal. La principale source de revenus qu'on a, c'est les cotisations étudiantes qui sont chargées automatiquement sur les factures des étudiantes et étudiants, mais ça peut être révoqué si certains le désirent. Donc, dans cette aile-ci, on a les studios de pré-enregistrement, mais avant, c'était notre studio de live qui était là aussi. Je dirais qu'il y a quand même une bonne partie de ce qu'on diffuse qui est pré-enregistré à tout le moins deux jours. Tout dépendant des disponibilités de chacun, tu sais, les gens travaillent, on comprend ça. Mais le soir, on est plus en live. Ce qui fait que là, présentement, on devrait pouvoir aller visiter le vrai studio. Parce qu'en théorie, il n'y a pas grand monde, mais ça. En tout cas, il y a peut-être un projet spécial aujourd'hui qui est enregistré dans ce studio-là. Bref.
Est-ce que ça rentre dans leur cursus aux étudiants de faire une émission de radio? C'est considéré dans leurs études?
Non, c'est pas considéré comme ça. En fait, l'Université de Montréal, c'est pas une université qui est axée sur les médias, fait que c'est un petit peu paradoxal que ça soit cette université-ci plutôt que l'Université du Québec à Montréal, qui sont deux universités différentes, qui ait eu une radio sur les ondes FM en premier. Donc ça, c'est notre vrai studio, ça a été aménagé plus récemment. L'affaire, c'est que je sais pas c'est quelle date, mais bon. Puis ici, on a une belle petite table rétractable, entre autres, qui nous permet de pouvoir récupérer l'espace pour recevoir des groupes, ce qu'on fait une fois par semaine habituellement, là, dans des conditions le plus professionnelles possible, dans les saisons d'automne et d'hiver. Puis non, c'est ça, pour répondre à la question, c'est pas considérant leur culture aux étudiantes et étudiants, parce que comme je disais, il y a des cours de communication ici, mais c'est plus des communications théoriques. L'aspect pratique se développe plus à l'autre université francophone de Montréal, l'Université du Québec à Montréal, ou l'UQAM. Cela dit, après ça, on essaie de s'impliquer le plus possible sur le campus, aller faire du recrutement dans les classes de communication et autres, mais ça reste que c'est bénévole et intéressé, mais c'est pas récompensé.
Mais ce sont uniquement des universitaires, des étudiants qui animent des émissions, ou est-ce qu'on peut très bien ne pas être étudiant et venir et tenir une émission sur CISM?
On n'a vraiment pas besoin d'être étudiante ou étudiant pour le faire. C'est le cas aussi pour les employés, parce que je me compare aux États-Unis, par exemple. Les radios universitaires étudiantes là-bas, les employés, directeurs musicaux, etc., c'est des étudiants. Puis généralement, ils quittent ce poste-là quand ils ont terminé leurs études. T'sais. Alors qu'ici, moi, je vais avoir 40 ans, ça fait 10 ans que je suis ici, puis c'est moi le directeur musical, c'est ma job. Là, on encourage, puis on essaie le plus possible d'aller recruter sur le campus, mais c'est vraiment pas une condition. Cela dit, c'est sûr qu'on porte une attention un peu plus particulière aux projets qui nous sont soumis, qui viennent des étudiants et étudiants du campus.
Ouais. Très beau studio.
Ouais, ben merci. Ouais. C'est bien, écoute, c'est un, mais c'est ça.
Ben, ça sonne bien. Oui, il y a un bon son, c'est essentiel.
Belle acoustique, oui, oui. Des beaux panneaux.
Et est-ce qu'il y a, par exemple, une émission vraiment des étudiants sur la vie du campus?
Ouais. Oui, bon, ben, en fait, le journal étudiant de l'Université de Montréal, Quartier Libre, a une émission ici aux saisons d'automne et d'hiver tous les vendredis. Fait que ça, c'est, ouais, c'est de l'actualité campus. Il y a d'autres émissions aussi moins in-house qui pop une fois de temps en temps puis qui vont vouloir parler de vie universitaire, ça arrive, mais la constante, c'est cette émission-là. Ouais. Puis ça parle des affaires sur un campus, notamment des sports. Il faut toujours parler des sports. Hein. C'est important.
Ah, vous avez des émissions sportives? Nous, je crois qu'on a du mal en France, dans les radios associatives, à avoir des émissions sportives.
OK.
Ouais. Vous en avez, vous?
Oui, on en a quelques-unes, des émissions sportives, puis qui, fort heureusement, se concentrent sur davantage de sports universitaires que les grandes ligues. Autrement, ça ne serait pas très intéressant. Je veux dire, le contenu, il faut toujours qu'il soit un peu en marge pour être en phase avec le son de la station, mais le son, l'image de la station. Fait que, tu sais, idéalement, habituellement, on déconseille aux gens de parler genre du Grand Prix de Formule 1 ou de la Ligue nationale de hockey. Là, tu sais, après ça, ben, c'est ça. Le sport universitaire, ça va. Les sports plus en marge, c'est cool. Mais, ouais.
Vous êtes combien à travailler ici, la CISM?
Il y a eu beaucoup de mouvements à CISM dans les derniers mois, mais en tant que tel, on est 6 employés permanents. On a 3 employés à temps partiel aussi. Puis il y a 80 émissions à peu près par saison, ce qui équivaut à 120 puis 140 bénévoles, je dirais, pour ces émissions-là. Ouais.
Ouais, ça fait quand même une équipe de 9 salariés.
Ouais.
Pas à temps plein, mais 9 salariés, quoi.
Ouais.
Ah, c'est une belle équipe.
Ouais, ben comme j'expliquais plus tôt, c'est partiellement grâce aux cotisations étudiantes qui nous permettent. On n'a pas besoin de faire de.
Il n'y a pas de publicité à l'antenne, hein?
Oui, un petit peu.
Ah.
Une fois à l'heure, c'est vraiment pas trop prenant. Mais il y a les cotisations qui permettent d'avoir un fonds de roulement. On veut un petit peu de pub, mais tu sais, juste avec ça, on n'a pas besoin de faire de levée de fonds annuelle, des trucs comme ça. Puis ça, je pense que c'est quand même un beau plus. Là.
C'était Benoît Poirier, directeur musical de la station CISM. Avant de terminer cette Dig Dig Diggers consacrée au Franco de Montréal édition 2023 avec Yuki Bertium Tremblay et Jean-Michel Coutu de Yocto, on écoute Station 01011, extrait de leur album Septa Supernova, qui sortira à la fin du mois d'août sur le label du Prince. Tu ne trouveras pas, tu ne trouveras pas. Yocto, c'est né de vous deux, alors, Jean-Michel et Yuki. D'après ce que j'ai compris, c'est votre complicité qui a fait naître...
Oui, surtout Jean-Michel qui compose, écrit les paroles, tout ça. Jean-Michel, c'est un peu le chef d'orchestre du projet. Puis moi, j'aime bien dire que je suis plus interprète et... j'incarne un peu l'esprit du projet, même si je travaille aussi avec Jean-Michel au niveau de la direction artistique quand même.
Du coup, vous les modifiez parfois aussi à deux. Toi, tu te réappropries ce qu'a écrit Jean-Michel.
Ouais, ben c'est ça. Je pense que je suis comme l'instrument qui va tester là, la chose. Puis à travers ça, on voit si comme ben si ça, si ça passe bien à travers moi, puis comme comment ça se présente là, tout ça. Ouais, ouais.
Alors, Yocto, c'est une micro-unité de mesure. Yocto, c'est un groupe. Yocto, c'est celle qui nargue l'antagoniste Mégalo. C'est super précis. Ça fait un peu flipper. Moi, j'ai l'impression que je vais rien comprendre. Hein? Mais quand même, c'est super intriguant. Alors, c'est hyper conceptuel comme groupe. Expliquez-moi un peu.
Ben, en fait, c'est ça. Je pense que on se fait un peu prendre au jeu. C'est-à-dire que... je parle dans la création du truc, c'est que y a un genre de concept un peu sous-jacent qui inspire des paroles, justement, qui inspire une espèce d'univers. Puis au final, ben on se rend compte que c'est intéressant aussi d'en parler puis d'inclure cette espèce de démarche artistique-là dans la présentation du projet, tu sais. Fait que, en gros, c'est cette espèce de univers là ou tout ça, c'est un genre de vecteur à une énergie brute, c'est vraiment, tu sais, je pense que qu'est-ce qui est le plus c'est-à-dire le plus important dans le projet, c'est vraiment l'énergie brute du truc, tu sais, au final. Après ça, c'est ça, tu sais, il y a une enveloppe un peu conceptuelle autour du truc, mais c'est plus comme une ambiance, je le vois comme ça. Ouais.
Mais du coup, c'est une ambiance, un concept qui vous permet après d'amener plein d'autres choses dans le visuel, l'esthétique. Et ça, c'est important pour vous aussi, tout ce qui accompagne, toute l'imagerie qui accompagne le groupe.
Oui, c'est pas mal. Je sais pas, Jean-Michel, qu'est-ce que t'en penses, mais je pense que c'est... On prend comme l'importance autant de la musique que de l'univers esthétique, visuel, autour de ça. C'est quand même très dans... Ouais.
Ouais. Ben c'est ça. Puis en fait, Philippe Beauséjour, qui est celui qui travaille beaucoup sur nos vidéos, du visuel, tout ça, qui était justement dans Hidalgo aussi. Ben c'est ça, c'est un complice de longue date. Puis c'est ça, il y a un univers qui colle super bien au projet. C'est ça. Fait qu'au bout de la ligne, je pense que l'expérience vidéoclip est super intéressante pour le projet. Ça donne vraiment la l'expérience complète.
Ouais, c'est un membre du groupe, en fait. Il fait la partie visuelle, mais c'est vraiment...
Ça vient... Ouais, c'est ça. Ça vient pratiquement un acteur du projet en soi. Ouais.
Ouais, vous passez beaucoup de temps à imaginer, préparer les clips, en discuter. Ça fait des allers-retours, ça nourrit la musique aussi?
Les clips, ils n'ont pas été... c'est-à-dire, ils ont été faits vraiment après l'album, en fait. Puis Philippe a une carte blanche, mais on se connaît tellement, en fait, c'est un ami d'enfance aussi, fait qu'on se connaît tellement que on n'a pas nécessairement besoin de temps à échanger pour que ça colle facilement.
Alors, vous présentez votre musique comme une musique aux échos post-punk et exotica, un space opéra nerveux et polychrome avec plein d'inspiration New Wave quand même. C'est l'idée d'hybrider aussi qui vous inspire, qui vous nourrit, qui vous plaît.
Je pense que... Ouais. Je sais pas trop quoi.
C'est ma faute, c'est une question fermée.
Non, c'est correct.
Oui, non.
Oui.
Oh,
merde. Alors,
vrai.
Ouais, comment on fait en fait pour pas plagier, quoi, se dire ben... En fait, on aime tous ces groupes, on aime ces genres-là, mais on a envie de faire un truc nouveau quand même pas...
Ouais. Ben moi, j'ai envie de dire que, tu sais, Jean-Michel, ça fait quand même longtemps que je travaille avec lui, comme plus que 10 ans, je pense. Mm-hmm. Puis, tu sais, il a quand même son univers assez distinct, je trouve. Puis, je trouve ça intéressant comme projet parce qu'on reconnaît beaucoup d'influences, mais c'est jamais... Je trouve que c'est, ça... Il y a quand même un leçon Yocto, je pense. Il y a quand même un univers qui est assez distinct, puis...
Ben, c'est... Je pense que c'est... On y va de... Je dirais qu'on y va de cœur. Je sais pas comment dire, mais on va travailler des sons des fois comme un simple son de synth, des fois qui peut avoir l'air anodin, mais on va vraiment comme avoir épluché beaucoup, beaucoup pour finalement arriver à... Okay, ah, c'est ça qui nous évoque le... Bon, des fois, on sait pas pourquoi, mais c'est, ça arrive, puis on file. Ça, c'est, ça, ça fit avec l'identité Yocto, tu sais. Mais...
L'identité quand même assez claire qui est là.
Ouais.
Puis on dirait qu'on sait quand ça marche.
Ouais.
Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur cet album Zepta Supernova qui va sortir bientôt, du coup? Alors, j'ai compris qu'il y a eu plein de difficultés, mais est-ce que vous pouvez me dire de quoi il parle? Est-ce que c'est une histoire, un déroulé? C'est un secret?
Je pense qu'il y a une trame narrative, il y a un élan narratif. Mais en gros, je pense que qu'est-ce qui est important, un peu comme je disais tantôt, c'est vraiment l'espèce de dynamique d'affirmation de qu'est-ce qu'on pourrait dire, entre guillemets, le personnage, même si, en tout cas, tu sais, c'est délicat de dire ça. J'aime ça que les textes peuvent être pris aussi hors du contexte du concept global, mettons. Fait que voilà. Mais ouais, c'est globalement, il y a question d'obsession, c'est ça, il y a une dualité, clairement, entre un antagoniste, un protagoniste ou une protagoniste. Puis c'est ça, dans cette dualité-là, il y a de l'orgueil maladif là-dedans, tout ça, puis c'est ça, une petite montée dramatique, voilà.
C'était Yuki Berthiaume-Tremblay et Jean-Michel Coutu de Yocto. Nous sommes à la fin de cette émission spéciale dédiée à l'édition 2023 des Franco de Montréal, auquel j'ai eu la chance d'être invitée grâce au partenariat établi entre la Ferrarock et l'équipe du festival. Je remercie en particulier Xavier, Jérémy et Laetitia, et chaleureusement toutes les personnes qui m'ont offert la chance de traverser une nouvelle fois l'océan Atlantique afin de profiter de cette édition des Franco à Montréal, cette ville dont je rêvais depuis si longtemps. Je dédicace cette émission à Mélanie Abellan, José Milo et Charlie Major, sans qui mon voyage aurait été bien trop court, ainsi qu'à Maxime Desharnais, Charline et Jasmin, sans qui ce voyage n'aurait pas eu la même saveur. Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant les groupes joués ou interviewés ici, ainsi que le podcast de cette émission, sur le site de la Ferrarock, ferrarock.org. On se quitte avec le morceau Suspense des Québécoises de la Sécurité, une des recommandations de Daphné et Guillaume de Bon Enfant, interviewés au début de cette émission.